Là, je vais vous dire un peu mon sentiment sur la situation du Parti socialiste. Et Fernando évoquait l'absence de discours du Parti socialiste, justement, sur cette externalisation des programmes et sur les fameux décrets TASCA. Bon. En gros, le Parti socialiste a utilisé depuis 20 ans considère France Télévisions comme pas comme une entreprise publique avec ses intérêts économiques propres, son intérêt social propre et des parts de marché, considère France Télévisions comme une administration culturelle qui doit financer des prébandes à des producteurs et dit de la création dans le cadre de l'exception culturelle. C'est comme ça que le Parti socialiste considère France Télévisions. Donc le Parti socialiste ne peut pas avoir une vision stratégique sur la télévision publique ou une vision stratégique sur le marché de l'audiovisuel parce qu'il considère France Télévisions simplement comme une grosse boîte noire avec pas mal d'argent quand même, même s'il y a moins d'argent que dans d'autres services publics européens, mais comme une grosse boîte noire à qui permet de financer la dite création. Quand je dis la dite création, encore une fois, bon là c'est peut-être un jugement de valeur de ma part, mais en tout cas, j'ai qu'à voir à l'écran ce qu'on nous propose. Bon. Au niveau, donc le PS n'a pas de vision stratégique audiovisuelle du marché et de la télévision publique parce que de toute façon France Télévisions, si on finance France Télévisions, ça suffit de toute manière, ça permet de faire des belles fictions, comme ça l'élu local est content quand il y a tel tournage qui est effectué dans sa ville, enfin bon. Ça c'est un premier élément. Bon. C'est-à-dire qu'il ne considère pas d'une manière économique, mais au sens noble du terme, pas au sens surenchère commerciale, il ne considère pas d'une manière économique la télévision publique. Ou les médias en général, d'ailleurs. Les médias, pour eux, il n'y a pas d'enjeu économique derrière. Bon. Deuxième point, là, il faut revenir sur l'histoire pour comprendre le rapport entre le Parti socialiste et France Télévisions. Bon, en réalité, dans le jeu des placards des rédactions de télévision, les placards les plus massifs, ça a été justement 74 avec l'arrivée des Giscardiens. En 74, Giscard, il fait le ménage et il y a des centaines de journalistes de la télévision publique qui sont foutus au placard ou virés. Bon, en 81, quand le Parti socialiste arrive au pouvoir, il n'y a pas cette chasse aux sorcières d'une manière aussi, on va dire, importante, contrairement à ce que les commentateurs ont bien voulu dire. Et ça, c'est du côté des rédactions. Mais du côté des directions de France Télévisions, enfin, à l'époque, c'était pas France Télévisions, mais des chaînes publiques, bien sûr, bon, tout le monde parle de Pierre Desgros et de ce souvenir formidable. Mais sauf qu'à l'époque, la hiérarchie intermédiaire de France Télévisions était toujours héritée de l'ORTF et de l'influence giscardienne. Ce qui fait que 30 ans plus tard, moi, j'en ai rencontré des anciens cadres de France Télévisions ou de la télévision publique et des anciens cadres qui viennent de partir de France Télévisions, qui viennent de partir à la retraite depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, allez, encore 4 ans, étaient tous d'obédience politique de droite, la plupart du temps. Parce que le PS, quand ils arrivent au pouvoir en 81, donc ils mettent quelques journalistes, on va dire communistes ou un peu sympathisants socialistes, à l'antenne, mais globalement, ils ne prennent pas contrôle de l'appareil télévisuel, de la télévision publique. Alors, à la fois parce que, je ne sais pas, ils sont peut-être Sainte-Mitouche, ils ne voulaient pas qu'on les critique en disant « on a pris contrôle de l'appareil », comme fait très bien Nicolas Sarkozy ou même avant Chirac et compagnie, mais il n'y a pas eu cet épisode-là. Et les socialistes, pour reprendre influence sur le marché audiovisuel, donc, ils ont procédé par la libéralisation et par la création de Canal+, où ils ont eu de l'influence par Canal+, on se lève quand même, hein. Il y a eu tout ce biais-là d'influence, et l'autre biais d'influence, ça a été de développer et de développer les boîtes de production dans le cadre de l'exception culturelle. Donc finalement, c'est la politique de Jack Lang par rapport à la création culturelle générale, sauf là appliquée au système audiovisuel. Et donc, depuis début des années 90, c'est les fameux décrets TASCA. Quelle est l'influence directe du Parti socialiste sur l'appareil de production de la télévision publique? C'est par le biais de cette production culturelle et de création. Voilà. Justement, pourquoi Serge Moati est aussi impuissant à la télévision publique? C'est bien par cet objet-là, on va dire, d'influence politique, qu'on le veuille ou non. On n'en parle pas, mais globalement, c'est ça. Henri Maller parle souvent, je crois, de gauche Télérama, c'est ça que tu me dis. Bon, mais c'est cette influence-là. Avec...
Et Nouvelle Obs aussi. Bon. Gauche Télérama et Nouvelle Obs.
Mais je veux dire, c'est de la bonne conscience de gauche, effectivement, mais c'est de la bonne conscience de gauche qui ne réfléchit pas en termes de rapport de force salariale au sein de la télévision publique. En gros, ce que je veux dire par rapport à cette contrainte-là, de ce débat-là, culture, télévision publique, direction de France Télévisions et groupe privé, généralement, à ce petit jeu-là, c'est toujours France Télévisions qui perd, globalement. C'est toujours France Télévisions qui perd, parce qu'en fait, c'est des cache-sexes, ces débats-là, en réalité. Parce que les gens qui réclament plus de culture, au niveau, j'entends, du pouvoir, hein, je ne parle pas des citoyens, hein, je parle des gens de pouvoir, des gens qui ont du pouvoir, et les hauts fonctionnaires, quand ils disent « il faut plus de culture sur France Télévisions », en fait, ils ne regardent pas France Télévisions, ils ne regardent pas la télévision. Ils ont le plus haut mépris du peuple, ça je vais le voir en les rencontrant, ils ont donc le plus haut mépris pour une télévision publique populaire, qui s'adresse au peuple aussi. Et ils s'en foutent. Eux, ils disent plus de culture, parce que comme ça, c'est noble, et surtout, ça fait pas de l'ombre économique au niveau du marché audiovisuel. Donc, France Télévisions est dans sa case. Moi, je pense que le débat citoyen sur les programmes de télévision et de télévision publique, il peut avoir lieu seulement si, à l'intérieur de France Télévisions, il y a le rapport de force qui fait que les salariés peuvent également dire « il faut qu'on fasse ça, il faut faire ça ». Donc, moi, je pense que la question de la qualité, elle est liée à la question quelle autonomie pour les salariés du service public, à la fois autonomie politique, mais autonomie économique et sociale. Mais globalement, comme les directions de France Télévisions partagent le même souci que les hauts fonctionnaires de dire on veut surtout pas avoir le port de Marseille et la CGT, parce que c'est comme ça, c'est quand même ça les présupposés. S'il y a des salariés qui auraient qui pourraient menacer d'interrompre l'antenne en faisant des grèves, qui pourraient avoir un poids et une influence dans le produit et le contenu qu'ils produisent, eh ben, ça pourrait aboutir au blocage total. Donc globalement, ça, c'est l'excuse générale d'ailleurs des hauts fonctionnaires ou des présidents de France Télévisions ou autres. Ça a toujours été le chiffon rouge des syndicats et notamment de la CGT. Or, moi, c'est toute la thèse de mon livre. Les syndicats ont participé à des choses, en tout cas en termes d'inertie, mais généralement, ils viennent. C'est la conséquence de choix qui n'ont pas été opérés, de choix qui n'ont pas été opérés par les directions et par l'État.
Alors, je pense que ce qui ressort de son enquête et ce qui ressort de son propos, c'est une chose fondamentale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de télévision, de service public, qui n'ait la maîtrise de sa stratégie industrielle et de ses programmes. Or, on se trouve dans la situation très simple, et ensuite on peut décrire les causes, où on a une télévision publique qui n'a ni la maîtrise de sa stratégie industrielle ou économique, ni la maîtrise de ses programmes. Voilà. Et alors, si elle ne l'a pas, c'est pour un enchevêtrement de causes que son bouquin met de façon très concrète en évidence. C'est peut-être que j'évoque ça parce que ça n'a pas été cité, parce que la télévision publique est soumise à une concurrence commerciale des chaînes privées, ça tu l'as évoqué, mais sous l'œil de Bruxelles, en plus, c'est-à-dire de la concurrence libre et complètement faussée version Bruxelles, bien, donc aucune autonomie, et deuxièmement des politiques, parce que l'un soutient l'autre, des politiques de droite, mais aussi de gauche, qui soutiennent cette mise en concurrence systématique des chaînes publiques avec les chaînes privées et qui acceptent de laisser aller à volo le secteur public. Moi, dans ton bouquin, il y a deux, trois épisodes qui m'ont frappé. J'en cite deux. Je ne soupçonnais pas à quel point Marc Tessier et de Carolis avaient essayé de bien faire. C'est-à-dire que quand on regarde le projet de Marc Tessier, qui est quand même pas un gauchiste invétéré, partisan de l'autogestion généralisée des chaînes publiques, hein. C'est pas le genre. Il avait eu, lui et son équipe, parce que ce n'est pas des questions de personne, une claire compréhension de deux choses, l'importance de la TNT et, en filigrane, c'était, ça ne portait pas encore ce nom-là, du multimédia. Il avait vu ça. Il s'est vu opposé frontalement TF1. Et ce sont les chaînes privées qui, alors qu'elles étaient opposées au déploiement des chaînes publiques sur le déploiement de la TNT et donc des chaînes publiques sur la TNT, qui ont gagné la mise de la TNT. De la même façon avec De Carolis, il y avait une grande proclamation d'un tournant éditorial, bien, dont il n'avait absolument ni les moyens financiers, ni les moyens politiques. Ce sont France Télévisions, c'est une administration sous tutelle. Ça a été amplement décrit, je n'y reviens pas. Donc sans reconquête d'une maîtrise de la stratégie économique et de la stratégie de programmation, donc de la réinternalisation d'une grande partie de la production, il n'y a pas d'avenir pour le secteur public. Il n'y a pas d'avenir. Le deuxième point que je voulais dire, qui est peut-être une réponse sur la question de la qualité. Je pense qu'en matière de secteur public, ça n'est pas au gouvernement de dire ce que doit être la qualité. Ni aux journaux. Hein ? Qui peuvent porter des appréciations critiques sur la qualité des programmes. Bon. Mais ce n'est pas au gouvernement de fixer les programmes. En la matière, il n'y a qu'une seule politique qui vaille, c'est la diversité. C'est-à-dire que l'audiovisuel, et parler d'audiovisuel est déjà archaïque, hein, mais le multimédia maîtrisé, c'est quelque chose qui assume la diversité des adresses à des publics qui sont des publics différenciés. Voilà, qui assume cette diversité. Qui donc fait une grande chaîne de télévision généraliste et populaire. Pas forcément vulgaire, mais populaire. Pas France Culture sur France 2. Hein. Télépédago, avec opéra obligatoire une fois par semaine. Bien. Mais qui en même temps est capable de développer une véritable chaîne culturelle, qui est capable de développer une vraie chaîne internationale d'information, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui est capable de développer des chaînes thématiques s'adressant à des publics différenciés par catégorie, par goût, etc. Or, France Télévisions n'a absolument ni la maîtrise des canaux, ni la maîtrise des programmes qui correspondraient à une offre aussi différenciée. Si bien que, ça sera ma petite conclusion provisoire pour l'instant, pour sauver le service, pour refonder le service public et sauver le secteur public, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien, d'un déclin inexorable, comme on avait titré le débat, les enchères sont très élevées, très très élevées. Parce que la reconquête de cette maîtrise, ça veut dire une remise en cause des politiques européennes, chacun votera pour le candidat de son choix aux prochaines présidentielles pour savoir quel est celui qui remet en cause le mieux ou le moins mal ces politiques européennes. Enfin, ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. Hein, ce n'est pas le cocorico français radical qui va résoudre le problème. Et deuxièmement, c'est la deuxième mesure de salubrité publique, il y a trois. C'est la déprivatisation de TF1. Silence dans les rangs de la gauche là-dessus. Silence. Et troisièmement, c'est évidemment la suppression des décrets de TASCA, c'est-à-dire la réintégration de la maîtrise de la production des programmes à l'intérieur du secteur public. Sans ces trois positions-là de base, il n'y a pas de service public qui tienne la route.
Il faut bouleverser d'une manière, de fond en comble, plein de choses dont on a parlé. Il faudrait remettre à plat toute la production et faire un yalta de la production et vraiment mettre les producteurs en face de leurs responsabilités, mais également les diffuseurs, enfin en tout cas les chaînes, devant leurs propres responsabilités. Il faudrait renouveler les cadres intermédiaires au niveau des unités de programme, parce que là c'est pareil, c'est toujours les mêmes. Là je vous ai parlé beaucoup des hauts fonctionnaires qui viennent et qui font des va-et-vient, mais dans les unités de programme de France Télévisions, qui achètent les programmes aux boîtes de production, généralement c'est des va-et-vient constants entre les boîtes de production, le groupe Lagardère, et on revient, et patati et patata, c'est toujours jeu de chaise musicale. Je dis pas qu'il faut pas avoir une évolution de carrière, patati, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas particulièrement de renouvellement dans ces gens-là. C'est pour ça que, durant l'enquête, d'ailleurs, je parlais donc à un fameux conseiller de programme, là, je vous parlais tout à l'heure, et je lui disais, mais vous n'avez pas les droits dérivés, ça ne vous gêne pas. Et alors, en fait, quand je lui disais ça, il ne comprenait pas ce que je lui racontais, parce que effectivement, France Télévisions a récupéré des droits de diffusion de ce qu'on appelle de délinéarisation, c'est-à-dire la possibilité pour France Télévisions de diffuser certains programmes en catch-up TV ou en VOD sur un certain temps, c'est-à-dire sur une semaine. C'est ce qui c'est le service Plus dont on parle un peu. Bon. Donc la France Télévisions a des droits de diffusion temporaires sur Internet. Ils sont temporaires, ils sont relativement courts, et c'est ce qu'on appelle les droits de délinéarisation. C'est-à-dire c'est encore des droits de diffusion, mais plus sur antenne classique, mais également sur Internet. Et le conseiller de programme me disait « Mais regarde, on a plein de droits, on ne sait même pas quoi en faire. » Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une question de savoir-faire qui se pose à ces cadres-là. C'est-à-dire c'est des gens qui ne... Même quand ils sont jeunes, parce que là, la personne à qui je pense est relativement, je ne sais pas, une quarantaine d'années, même ces gens-là, d'une quarantaine d'années, au sein de la télévision publique, mais ça pourrait être le cas aussi en télévision privée, c'est-à-dire qu'il y a un manque de savoir-faire et d'adaptation à la révolution en cours au niveau du numérique. Mais ça s'est posé au niveau des majors musicales. Enfin, voilà. C'est des gens qui se sont très peu remis en question, parce que justement, jusqu'à présent, ils n'avaient pas ces questions-là à se poser. Notamment, ils ne se posaient pas la question de comment faire pour trouver des nouveaux publics, pour les intéresser à ce qu'on fait, à leur proposer des programmes différents. Justement à diversifier également aujourd'hui avec le numérique, diversifier les différents publics. France Télévisions pourrait très bien faire plein de programmes très très différents, y compris sur Internet, pour plein de publics différents. Quand on prend la question des médias en France, soit on la prend du côté des consommateurs ou des lecteurs, des citoyens, soit on la prend du côté des patrons de presse ou autres, mais on n'en fait jamais on ne prend jamais les médias comme l'expression du système démocratique français, c'est-à-dire du système institutionnel. Et la télévision publique qu'on a, avec les va-et-vient de hauts fonctionnaires que je vous ai décrit, avec la tutelle féroce de Bercy, le poids des finances de Bercy sur France Télévisions, c'est le résultat simplement du système institutionnel de la Ve République. Y compris, pareil, la presse écrite. La presse écrite nationale, tout le monde dit, le papier est cher. Oui, les ouvriers du livre on nous embêtent. C'est les patrons qui disent ça. Bon, après, il y a des choses à dire aussi sur eux, mais en tout, globalement, c'est les discours qu'on a. Mais personne ne dit que la faiblesse de la presse écrite nationale ou l'état de la presse régionale aujourd'hui, c'est-à-dire les monopoles en région de quelques grands groupes, est le résultat du faible débat démocratique dans le pays. C'est-à-dire, on n'a pas de grands quotidiens régionaux comme dans d'autres pays, parce que les métropoles qui pourraient être l'objet de pouvoir politique et économique en France n'ont pas de poids par rapport à un État extrêmement centralisé sur Paris. La presse nationale, enfin plutôt parisienne, elle est dans un État aussi fragile, parce que quand l'élection présidentielle décide de tout en termes d'alternance politique, enfin alternance c'est un grand mot, mais en tout cas de changement de personnel politique à la tête de l'État français, et que ça se passe globalement par des stratégies de sondage et de télévision, oui, ça se passe partout pareil, sauf qu'en France c'est renforcé parce que c'est la Ve République, c'est l'élection présidentielle. En Italie ou en Allemagne, la presse écrite est composée d'une manière totalement différente. Si je fais la comparaison avec l'Italie, la presse écrite italienne, on va dire, en termes économiques, à peu près le même support en termes de public que les Français, c'est-à-dire les Italiens lisent assez peu de presse généraliste et politique comme en France. Mais la presse politique italienne est quand même plus forte que la presse française. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a un régime parlementaire où il y a des alliances politiques qui doivent se faire, donc il y a des financements politiques, je veux dire, il y a un intérêt que les structures politiques, elles ont un intérêt direct à ce qu'il y ait une presse politique et généraliste diversifiée et qui puisse donner écho au débat parlementaire. C'est un va-et-vient. En France, comme tout se fait au niveau des décisions économiques dans des cabinets ministériels entre trois portes, et que de l'autre côté, les décisions démocratiques d'élection, ça se fait en gros sur le débat du second tour quand il y en a un pour l'élection présidentielle, ben ça aboutit à un regard malthusien sur les médias. C'est-à-dire pour ça que je pense que ça bloque aussi du côté de la gauche de gauche qu'il n'y ait pas de discours, que ce soit Besançon ou Mélenchon, parce que de toute manière, qu'ils le disent ou non, ils sont intégrés à ce système politico-médiatique et qui est très féroce en France. Et ça, je pense, c'est mon analyse. tout cas mon avis, c'est qu'en France, le poids des médias est d'autant plus fort, enfin, le poids des médias, il est fragile, il est faible économiquement, mais fort en termes d'influence. Le poids des images est fort parce que justement, c'est la 5e République. Alors après, la rédaction de France 2. Donc Pujadas arrive en 2001, il vient de la chaîne info de TF1, LCI. Donc lui, il veut du tout info et il veut transformer le 20h en chaîne info, c'est-à-dire avec une multiplication des hosts, c'est-à-dire des commentaires d'images que lui peut faire et avec moins de reportages, ou en tout cas des reportages beaucoup plus courts. Ça, ça a été une période pendant au moins 5 ans où il n'a pas arrêté de faire ça. En tout cas, on va dire 4 ans. Là, ça s'est un peu atténué. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez vu, maintenant, ils font des sujets enquête sur plusieurs minutes. C'est un peu plus long.
Le dossier. 2 minutes 20.
C'est des sujets plus magazine, donc souvent, on va dire, moins sensibles politiquement aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont derrière. Mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pujadas est arrivé en 2001, et surtout en 2003, il se passe quelque chose au sein de la rédaction de France 2, qui est dirigée depuis 2001 aussi par Olivier Mazerolle, qui vient d'RTL et de la radio. Il y a la suppression des anciens services. C'est ce qui est en train d'ailleurs de se passer à la rédaction nationale de France 3 depuis quelques mois. Une rédaction importante comme la rédaction de France 2, qui a à peu près 350 journalistes, a été rédacteur en chef. C'est une rédaction traditionnelle à l'époque, enfin, il y a 15-20 ans, avec des services et des chefs de service, des services spécialisés, donc un service politique, un service économique, un service, il y avait encore un service social il y a 20 ans, mais un service santé. Voilà, donc les journalistes sont mis dans des petites divisions où chacun se partage le traitement de l'actualité en service. Et à la tête de ces services, il y avait des chefs de service qui étaient les principaux interlocuteurs en conférence de rédaction et qui étaient les principaux interlocuteurs de ce qu'on appelle les rédactions en chef des éditions. C'est-à-dire les rédactions en chef des éditions. En gros, d'un côté, il y a les producteurs de reportages, enfin les services d'idées de reportage, et de l'autre côté, les rédacteurs en chef des éditions, qui sont souvent plusieurs, eux, ils font le menu du JT. Voilà. Ils font, en presse écrite, c'est comme s'ils faisaient le chemin de fer, c'est-à-dire le menu des journaux. Et il y a 10 ans, encore la rédaction de France 2, les conférences de rédaction, c'était une confrontation, un rapport de force entre les chefs de service qui défendaient le travail de terrain et le travail des journalistes engagés dans les services, leurs journalistes, et les rédactions en chef, et le présentateur. Bon. Tiens, et c'est là où je voulais en venir par rapport à Pujadas. En fait, ce qui s'est passé en 2003 à la rédaction de France 2, c'est comme sur le modèle de TF1, ils ont supprimé les services. En tout cas, ils ont supprimé les services traditionnels en termes de thématiques comme ça. Et ils ont organisé la rédaction de France 2 en deux grands services. D'un côté, ils ont foutu le service dit noble, enfin noble pour les journalistes, et en tout cas, il est considéré comme tel au sein de la rédaction, c'est-à-dire le service enquête et reportage. Et le service vie quotidienne et santé et éducation. Globalement, c'est on a mis tout le reste dans un même service. D'un côté, pour reprendre les termes d'un journaliste que j'ai interrogé, d'un côté il y a les bras cassés, de l'autre côté il y a les cadors. Mais les cadors, entre guillemets, au niveau du service enquête et reportage, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est l'ancien service information générale justice qui suivait les faits divers et les procédures judiciaires. Donc tout ce qu'on appelle l'infogéné globalement dans les journaux, dans les médias, qui ont été fusionnés avec l'ancien service étranger. Ce qui fait qu'en 2003, des reporters de faits divers ont pu être envoyés sur des terrains de guerre. Et traités comme tels, comme des faits divers. Ou vice-versa d'ailleurs, des reporters internationaux ont pu faire du fait divers. Donc il y a eu un mélange des genres à ce niveau-là. Ça serait un autre sujet, mais donc il y a les anciens du service étranger qui ont refusé ça, sont retrouvés mis un peu à l'écart. Bon, ils étaient un peu fatigués aussi, mais quand même, ils ont été mis un peu à l'écart. Il y a même une expression dans la rédaction de France 2, ils sont mis au bocal. Donc il y a quelques grandes signatures qui passent toujours à l'antenne d'ailleurs, mais qui vont plus sur le terrain, qui vont plus faire des reportages, mais qui vont faire des cabines, c'est-à-dire ils vont enregistrer des sujets à Paris et faire du commentaire, alors que parfois ils ont 30 ans de métier, ils parlent arabe, ils connaissent le monde arabo-musulman, je pense à quelqu'un là, ou je pense à d'autres personnes. Bon. Après, donc, ce qui s'est passé, c'est que comme les services ont été supprimés, bon là c'est un peu schématique hein, ce que je vous raconte, mais comme les services ont été supprimés, les services thématiques ont été supprimés, y a le rapport de force au sein de la rédaction s'est déplacé. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé du côté des rédactions en chef des éditions et du présentateur. Et donc Pujadas a pu facilement, d'une certaine manière, dire « Ah ben je veux tel sujet, je veux tel sujet, ou j'ai lu le Parisien, il faut me faire tel sujet, et patati patata. » Et de l'autre côté, les services n'étaient plus organisés en force de proposition. Donc ils ne proposaient plus de sujets. Donc avant, il y avait, on va dire, un double mouvement. Il y avait des éditions qui faisaient leur journal, leur JT, et de l'autre côté, il y avait les services qui, par leur spécialité, par les enquêtes accumulées sur les sujets, pouvaient dire « Ah ben tiens, ça, il faudrait peut-être faire un sujet sur ça, ou faire une enquête. » Ou voilà. Ça, ce mécanisme-là, assez fragile, a été cassé depuis 8 ans, globalement, en tout cas la rédaction de France 2. Et donc ça a accompagné un mouvement de sensationnalisme, que ce soit au niveau de la couverture de l'actualité étrangère, des faits divers ou autres. Et par ailleurs, ça a permis aux présentateurs de personnaliser davantage le JT. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à France 2, globalement. C'est pour ça qu'après, quand Arlette Chabot est arrivée en 2004, elle avait déjà le travail mâché, c'est-à-dire que ça a été l'une des, c'est ce que je mets dans le livre, l'une des directrices de l'information qui est restée le plus longtemps à la tête de la rédaction de France 2, parce qu'en réalité, en fait, il n'y avait plus de contre-pouvoir journalistique au sein de la rédaction de France 2 quand elle était arrivée déjà.
Voilà. Il faut savoir clore un débat une fois qu'on a obtenu satisfaction. C'est la phase de nous.